Hey, petite question avant votre épisode, vous êtes où là? Vous écoutez ce podcast pendant une douche express ou sur le trajet du boulot? Alors allons à l'essentiel. Et si je vous disais qu'il existe un produit pour prendre soin de vos soucis de peau de la grossesse au postpartum? Je suis heureuse de vous présenter le nouveau produit d'une marque que j'affectionne depuis ma première grossesse en 2010, l'essentiel maternité de Mustela, un lait certifié bio, multi-action, compatible avec l'allaitement, qui permet de prévenir et d'apaiser les vergetures, les démangeaisons et les tiraillements, et passer un moment rien qu'à soi. L'essentiel maternité par Mustela, le produit que j'aurais vraiment aimé trouver. Allez à l'essentiel et bon épisode. Bienvenue sur le podcast Un temps pour naître. Je suis Edwige, et dans la vie, je suis accompagnante périnatale. Qu'est-ce que c'est que ce métier ? Eh bien, mon rôle, c'est d'apporter du soutien, une oreille attentive, une épaule soutenante, du bien-être, des informations et des outils aux futurs et jeunes parents dès le désir d'enfant. Vous l'aurez compris, c'est un métier passion que j'exerce à Vannes, en cabinet et en visio, depuis 2020. En fait, ce qui me passionne, moi, c'est l'humain. Et c'est fou comme ce passage du devenir parent peut être à la fois si chamboulant, transformateur et en même temps si tabou. Alors pour dépasser le cadre individuel, je m'appuie sur les grands questionnements et les réflexions issues des accompagnements pour vous partager un épisode chaque mardi. Bonne écoute ! Bonjour tout le monde et bienvenue dans cet épisode de podcast qui va parler maternité et neuroatypie. Pour l'occasion, je ne suis pas seule parce que je ne suis pas la spécialiste de la neuroatypie. Néanmoins, je crois que le sujet va concerner beaucoup d'entre vous et peut-être vous faire écho auprès de proches. Donc je trouvais hyper intéressant de faire un épisode croisé avec une personne qui s'y connaît vachement mieux que moi, qui n'est autre que Julie Kellogg, ma sœur, vous l'aurez compris. Est-ce que tu veux bien te présenter, Juju ?
Eh ben bonjour tout le monde, moi c'est Julie, du coup je suis en train de lancer mon entreprise d'accompagnante pour les personnes neuroatypiques, notamment les adultes. C'est rigolo parce qu'on se lance, on est un petit peu dans la même chose, mais pas dans le même domaine avec Edwige, donc c'est trop chouette et très rigolo. Donc voilà, j'ai trouvé que la neuroatypie était très méconnue, pas forcément accompagnée, notamment pour les adultes. Et du coup, c'est un sujet que je trouve et passionnant et formidable. Voilà.
Et qui mérite aussi d'être accompagné.
Et qui mérite évidemment d'être accompagné.
D'où cette vocation qui t'est venue. C'est une reconversion.
Exactement.
Qu'est-ce que tu faisais avant ?
Avant, j'étais barmaid pendant 5 ans. Et voilà, c'était un environnement qui me convenait plus du tout. J'avais toujours voulu être dans le care, prendre soin des autres. Et puis, le chemin de la neuroatypie, je l'ai croisé au travers de mon propre parcours. Et puis après, toutes les recherches intenses que j'en ai faites et ce sujet passionnant. Et en effet, qui mérite évidemment un accompagnement.
Bon, premier épisode de podcast, c'est toujours un moment particulier. Et en plus, on n'est pas seul parce qu'on est avec Melouche, qui est le chat de Julie, qui a une particularité, une atypie aussi, c'est qu'elle bave quand on la caresse. Donc là, elle est en train de déperler sur mon pantalon. C'est très, très drôle. Si vous entendez des bruits.
Voilà, c'est Melouche qui est très heureuse d'être avec nous, visiblement.
Elle tenait absolument à être présente. Donc, nous sommes trois pour cet épisode. Tu es en train de décalquer mon pantalon, c'est le bonheur. J'adore. Alors, pour commencer quand même, Julie, Julie, c'est ma petite sœur, hein, donc je suis un peu fière de le dire quand même. Et je mettrai son compte Instagram dans la description de l'épisode si vous avez envie de la suivre sur son chemin d'accompagnante en neuroatypie, d'aller un peu plus loin aussi dans la compréhension de ce que c'est. Qu'est-ce que c'est du coup la neuroatypie ?
Alors la neuroatypie, on va être sur des fonctionnements cérébraux qui vont être différents de la norme, donc atypiques, qui vont être donc soit non handicapants, donc là on va parler du HPI, et puis après on va être sur plutôt des troubles, donc on va être sur le TSA, donc trouble du spectre de l'autisme, TDAH c'est... 1, 2, 3, troubles de l'attention avec ou sans hyperactivité. On va avoir également les troubles 10 et quelques autres qui peuvent s'y glisser en fonction des descriptions, mais on parlera pas de cela. Voilà.
Donc l'atypie, c'est quand on a
C'est quoi? C'est une connexion neurologique?
Ouais, une cognition qui va être différente. Des zones du cerveau, par exemple, qui vont agir différemment en fonction des stimuli. C'est vraiment une façon d'être au monde qui est différente de la moyenne, de la norme. Voilà.
Ok. Est-ce que on peut peut-être commencer par parler de l'autisme, le trouble du spectre autistique? Est-ce que tu pourrais nous apprendre sur ce trouble-là?
Alors, le trouble du spectre de l'autisme, donc on parle plus d'autisme, on parle plus de Asperger, on parle de trouble, parce que c'est des caractéristiques qui vont se présenter sous plein de formes différentes. Ça s'articule autour de deux axes, le déficit de la communication et des interactions sociales, et les comportements et les intérêts restreints. Et autour de ça, il y a tout un tas de choses qui vont pouvoir s'articuler, des façons dont ça va apparaître, qui sont extrêmement différentes d'une personne à l'autre. Voilà, donc l'autisme peut toucher absolument tout le monde, ça ne touche pas que les garçons, ça ne concerne pas que les personnes qui ont une déficience intellectuelle, ça peut toucher absolument tout le monde, puisqu'aujourd'hui, on pense que la prévalence est de une personne sur 100, donc ça fait quand même beaucoup. Voilà, et donc on parle de spectre pour toutes ces personnes que ça peut toucher.
Voilà. Oui, on est loin du cliché de la personne qui communique pas du tout,
exactement,
dans sa bulle.
Exactement. Oui, okay. Ça peut vraiment intervenir de façon extrêmement différente d'une personne à l'autre. Les autistes peuvent regarder dans les yeux, peuvent avoir des amis, peuvent avoir un travail épanouissant. Il n'y a pas de souci. Voilà, c'est le spectre est extrêmement large.
D'accord, mais quand même les grands traits, ça va être une petite altération des interactions sociales, c'est ça, Fanny?
C'est des troubles des 1, 2, 3. Troubles de la... J'y arrive pas. Troubles de la communication, ouais, du coup, qui peuvent vraiment se montrer de plusieurs façons différentes. C'est-à-dire qu'on peut avoir une personne autiste qui va être très extravertie. Pour autant, elle va pas forcément comprendre les émotions des autres. Mais après, on peut avoir quelqu'un qui est très introverti, qui va comprendre les émotions. C'est extrêmement différent d'une personne à l'autre. Mais ça s'articule en tout cas autour de ces traits-là, donc déficit de la communication et interaction, et comportement et intérêt restreint. Donc ça peut être des stéréotypies, comme se balancer par exemple, ou toucher régulièrement ses cheveux, et les intérêts restreints. Donc avoir un sujet qui nous passionne et qu'on va creuser à fond, qui va tenir toute la vie. Ça peut aussi être des sujets qu'on va creuser à fond et on va les espacer, changer un petit peu tout au long de la vie. Et aussi, toutes ces caractéristiques peuvent changer au cours de la vie de la personne.
Ça peut évoluer, quoi.
Ça peut évoluer. On ne va pas être sur les mêmes traits tout au long de la vie, quoi.
Ok. Voilà. Et en quoi ça peut être... on peut dire que c'est un trouble. En quoi c'est handicapant d'avoir ces comportements-là?
Et ben après, c'est pareil. Ça va vraiment dépendre de chacun en fonction de... quelle caractéristique va être le plus handicapante dans la vie de tous les jours. Il y en a pour qui ça va être très compliqué d'interagir et donc, par exemple, qui vont pas pouvoir trouver de travail épanouissant parce qu'ils seront stigmatisés aussi. Il y a des personnes qui sont un peu moins autonomes par rapport liées aux tâches du quotidien. Donc ça va être trop pris par son intérêt restreint pour pouvoir se doucher, manger, aller aux toilettes et ce genre de choses. Ouais, ouais.
Ah oui, tu te coupes de tes besoins vitaux.
Totalement.
C'est vraiment un intérêt. C'est pas être passionné par quelque chose, c'est vraiment être aspiré
dans
sa moelle au point d'oublier de vivre, quoi.
Exactement.
Ok.
Exactement.
Ah, mais j'apprends des choses, merci.
Oui. Non, ça peut. C'est vraiment des choses, ouais, qui sont vécues de façon extrêmement forte. Et puis en fait, c'est celle. Il y a quand même un signe qui est présent dans l'autisme, même s'il fait plus partie des critères de diagnostic depuis le DSM-5. Ça va être des troubles de la sensorialité. Donc, ils sont quand même plus présents chez les autistes. En tout cas, il y a une prévalence très forte chez les personnes autistes. Et l'environnement et la perception de l'environnement va pouvoir être très compliqué. Par exemple, très mal vivre certains bruits, certaines... Enfin, en fait, tout ce qui va être lié au sens, même prendre sa douche, par exemple, le contact de l'eau peut être très douloureux pour certaines personnes autistes, par exemple, ouais.
C'est le système nerveux qui va être exacerbé à ce moment-là.
C'est la réponse du cerveau, ouais, c'est ça, à certains stimulus qui va être différente, en fait. C'est-à-dire que la perception de base, l'autiste voit la même chose, mais le cerveau l'interprète différemment, en fait, ou le ressent différemment.
Ouais. D'accord. Ok, donc ouais, ça peut être vraiment handicapant, oui. Dit comme ça, je comprends bien.
En effet.
Est-ce que tu as autre chose à rajouter sur le trouble du spectre de l'autisme ?
Dans la présentation, pour l'instant, non. Après, je pense qu'on aura l'occasion de rediscuter d'autres choses qui peuvent graviter autour. Mais pour l'instant, je crois qu'on a présenté, en tout cas, ce trouble comme il faut.
On va passer au TDAH, qui concerne aussi beaucoup de personnes. Je le dis parce que je connais pas tous les gens qui écoutent les podcasts, mais je connais mes accompagnés. Et on voit bien des petits TDAH traîner dans le coin. Est-ce que tu peux dire ce que c'est ?
Donc TDAH, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est le trouble déficit de l'attention avec ou sans hyperactivité. Donc là, c'est pareil, on est sur un spectre. Donc en fait, ça peut toucher absolument tout le monde, pas que les petits garçons très hyperactifs. voilà, non, ça c'est pareil, c'est une légende. Donc voilà, peu importe l'âge, c'est un trouble donc on va diagnostiquer à partir de l'entrée à l'école, même si je les présente plus tôt, c'est vraiment là qu'on va pouvoir... commencer à savoir, peut-être même l'entrée au CP. Là, on commence vraiment à étudier ces pistes de diagnostic et qui sera présent aussi tout au long de la vie, avec des fluctuations. On peut passer d'une période de beaucoup d'hyperactivité à une période d'inattention. On peut combiner les trois grandes caractéristiques. Donc déficit de l'attention, hyperactivité motrice et impulsivité, qui sont les trois grandes caractéristiques du TDAH, mais pareil, qui s'articulent différemment en fonction de la personne et tout au long de la vie de la personne.
Oui, qui peuvent aussi évoluer, quoi.
Exactement.
Alors, ça veut dire quoi, trouble de l'attention ?
Trouble de l'attention, ça veut dire qu'on peut être très facilement distrait, par exemple. Donc, pour un enfant, par exemple, dans une salle de classe, s'il trouve que dehors, il y a des nuages qui sont plus intéressants que ce que dit le prof, et ben voilà, ça va être très difficile, voire impossible, sans aménagement adapté, de se concentrer, en fait.
Ouais, c'est la question de la concentration,
oui,
en fait.
C'est ça, et c'est pas du tout une question de mauvaise volonté, comme on peut souvent le croire, ou de caprice, ou ce genre de choses, c'est que le cerveau fonctionne de cette façon, en fait, qui va être happé par un détail qui paraît insignifiant pour tout le monde, et voilà, donc c'est des personnes avec qui il faut... À qui il faut porter une attention particulière, mettre pas mal de repères visuels ou auditifs. C'est plutôt, faut beaucoup d'interactions pour réussir à capter l'attention, en fait.
Ah oui, comment ça, beaucoup d'interactions pour capter ?
De l'interaction, c'est-à-dire plusieurs repères, en fait. Plusieurs repères et capter l'attention, c'est-à-dire faire interagir la personne.
Ah oui, il faut dynamiser.
Ouais, exactement. Okay. Parce qu'on est sur des personnes qui vont aussi facilement s'ennuyer ou justement dériver un petit peu.
Papillonner très facilement.
Exactement.
Donc les cours très académiques, ça marche pas très bien.
Bah, ça dépend pour qui, mais en tout cas, pour la plupart, oui, c'est plutôt compliqué, en effet. Et puis après, bah, ça se manifeste toujours à l'âge adulte, donc on est sur les mêmes thématiques, l'hyperactivité potentielle, l'impulsivité, donc ça va être prendre des décisions très rapides sans en mesurer les conséquences. On va avoir beaucoup de personnes qui ont un TDAH qui vont couper la parole ou voilà, ce genre de choses qui peuvent être un peu compliquées en société, mal vues en société aussi, alors que bah, c'est des personnes qui ont... Enfin, ça demande un réel travail pour elles de comprendre ces normes sociales et de les intégrer.
Ouais. Voilà. C'est que les personnes n'ont pas les codes ou qu'elles les connaissent, mais que ça dépasse...
Exactement, ouais. C'est plutôt qu'elles les connaissent, mais ça va dépasser, c'est plus fort qu'elles, en fait. Voilà.
Okay.
Donc, c'est des personnes, comme dans l'autisme aussi, en fait, à qui on va demander beaucoup d'efforts d'adaptation. Mais voilà, faut pas oublier que c'est très difficile à vivre pour les personnes qui subissent ce trouble. Voilà.
Et l'hyperactivité, qu'est-ce que c'est ?
Hyperactivité, donc notamment motrice, ça va être le besoin de toujours être en mouvement, avoir des gestes répétitifs aussi, donc ça se croise un petit peu avec l'autisme, c'est-à-dire bouger ses jambes, se balancer, se ronger les ongles aussi, ça fait partie de ça, avoir toujours quelque chose sous la main pour justement quand on est assis trop longtemps... Réussir à se concentrer, en fait, c'est des choses qui nous ramènent un petit peu à, mine de rien, à la concentration, ce qui est assez étonnant, mais voilà. Donc ça peut être soit jamais réussir à s'arrêter, soit quand on a besoin de fixation, faire un mouvement répétitif justement pour refocus.
Canaliser.
En fait, ouais, exactement.
Il y a un mouvement corporel qui est permanent et comme s'il y avait des... fallait se décharger de ça pour
c'est
pouvoir
ça.
Accéder à une concentration.
C'est ça, quoi. C'est que tout va très vite et du coup, il faut revenir à soi, quoi. Revenir à la situation. Ok.
Donc TDAH, donc tu disais avec ou sans hyperactivité.
Oui.
Ça, il se peut qu'il n'y ait pas ça, mais qu'il y ait quand même un déficit de l'attention.
C'est ça.
Cette impulsivité sans qu'il y ait de l'hyperactivité.
Exactement.
Parce que l'impulsivité, on imagine que c'est les gens hyperactifs.
Mais ouais, non, pas forcément.
Non, c'est une prise de décision avant que ce soit mûrement
réfléchi. Ouais. Et puis, ça va être aussi beaucoup se faire mal, se cogner, parce que justement, il y a cette inattention du monde qui nous entoure. Je pense qu'il y a un petit déficit de proprioception aussi, c'est-à-dire de sens fin de ce qu'on est, enfin de comment le monde est à nous, quoi. Ouais, c'est ça.
Non, j'ai des gens en tête, c'est terrible. Je suis sûre que les gens qui écoutent, ils sont en train de penser à des gens de leur entourage ou à eux-mêmes en se disant ah.
Bon voilà, après c'est si on se reconnaît dans un de ces potentiels symptômes, ça veut pas dire qu'on est soit autiste soit TDAH. Évidemment, il faut quand même respecter un certain nombre de critères. Et puis, bah voilà, après, on peut se poser des questions, évidemment, si ça nous paraît être utile pour la suite et pour se comprendre un petit peu mieux. Mais voilà, si on se reconnaît dans un des symptômes, ça ne veut pas dire qu'on est TDAH, qu'on est autiste. Voilà.
Ok, oui, ça peut concerner des personnes qui ne sont pas dans ces cases,
oui, bien sûr,
mais qui ont aussi peut-être un trouble de l'attention, par exemple, mais qui pour... Peut-être que cet épisode, la suite, pourra aider quand même.
Exactement.
Même si on ne fait pas partie de l'identité de tel profil. Comment on fait pour savoir ?
Alors, comment on fait pour savoir ? Pour l'autisme, il n'y a pas beaucoup de solutions. En tout cas, pour l'autisme à l'âge adulte, va y avoir les centres ressources autisme. Donc là, c'est gratuit. Les délais sont un petit peu longs. Mais on est accueilli par une équipe qui est pluridisciplinaire. Et donc, ça va se passer sur quelques jours en général. Avec des entretiens cliniques, quelques tests. Ça peut se faire en libéral aussi, donc avec des neuropsy.
Neuropsychologue, psychiatre.
Exact. Neuropsychologue, neuropsychiatre, ouais. Voilà, mais c'est pareil, les délais sont toujours un petit peu longs, alors on a de la chance. C'est un petit peu... voilà, ça peut être un parcours qui est difficile, mais c'est intéressant à savoir pour soi, ça peut aider vraiment... à améliorer le quotidien. Donc voilà, si vous vous posez des questions et que vous creusez un peu le sujet, ce sera en effet le chemin à prendre pour avoir un vrai diagnostic. Et pour le TDAH, je crois, mais je ne suis pas certaine, donc pas à prendre au pied de la lettre, peut-être se renseigner après ça, qu'on peut établir ça donc chez un neuropsy également. C'est peut-être un peu plus facile et je crois que les psychiatres peuvent en tout cas poser un prédiagnostic, voire un diagnostic plus facilement que pour l'autisme. Voilà.
C'est plus facile à déterminer.
Il me semble, ouais.
D'accord, ok. Donc on peut se rapprocher d'un neuropsychologue, d'un psychiatre et eux, oui, peuvent aussi donner la marche à suivre ensuite.
Exactement.
Voilà. Toi, tu poses pas de diagnostic. Dans ton métier, tu es là pour accompagner les personnes dans leur quotidien ?
Moi, je suis là pour accompagner les personnes dans leur quotidien, diagnostiquées ou pas.
Et accent aigu. Tu ne diagnostiques pas ?
Je ne diagnostique pas, ouais. Non, voilà. Moi, je suis juste là pour accompagner les personnes qui sont diagnostiquées ou qui ne sont pas diagnostiquées. Oui, pardon, c'était pas forcément clair. Mais à aucun moment je ne peux poser un diagnostic ni un prédiagnostic. On peut éventuellement regarder quels symptômes il y a, éventuellement dresser une liste pour le présenter à un professionnel de la santé mentale. Voilà, moi je suis que accompagnante, je ne suis pas professionnelle de la santé mentale à proprement parler.
Oui, tu fais pas partie du parcours médical à proprement parler, mais tu es quand même là pour aider à améliorer le quotidien.
Exactement, et à améliorer éventuellement le fait d'aller dans ce parcours, voilà, de trouver les bons professionnels, quoi leur dire, comment présenter les choses pour que ce soit le plus fluide possible, etc.
Voilà. Ok. Tu as précisé, je ne sais plus si c'est au début de l'épisode ou quand on en a parlé avant, que le HPI, ce n'est pas ta spécialité principale. Est-ce que tu peux quand même en dire quelques petites choses ? Parce que je pense qu'il y a beaucoup de légendes autour de l'HPI, mais c'est pas un trouble en soi, finalement.
Exactement.
C'est une neuroatypie.
C'est une neuroatypie, ça en fait partie. Donc, le haut potentiel intellectuel, c'est une neuroatypie dans le sens où... c'est les personnes qui vont avoir un QI au-delà de 130. C'est une neuroatypie dans le sens où la grande majorité des personnes n'ont pas un QI au-delà de 130. Donc on est, je crois que c'est pareil, sur 2% de la population ou quelque chose du genre. Mais contrairement à beaucoup d'idées reçues, le HPI n'est pas un trouble. Il n'est pas censé apporter des difficultés dans la vie, pas de handicap. Ça, c'est certain.
Ça ne rend pas malheureux.
Ça n'apporte pas plus de difficultés que pour une personne normale, avec des guillemets. Donc voilà, c'est vrai que on peut en parler. Hein. Je peux parler avec des personnes qui se posent des questions sur le HPI, mais en effet, normalement, c'est quelque chose qui n'a pas besoin de suivi en tant que tel. Et s'il y a des difficultés qu'on croit être liées au HPI, ce n'est normalement pas le cas. Donc il faut aller creuser autre part.
Ouais, d'accord. Ce qu'on se dit quand même, c'est que quand tu es HPI, tu as tendance à penser peut-être plus. Et le fait de penser plus, tu as potentiellement une possibilité d'avoir des pensées qui sont pas cool, peut-être plus que les autres gens, non ? Tu crois pas ?
Alors, le HPI n'est pas censé amener plus de pensées, mais une pensée plus rapide, normalement, quand même. Après, oui, c'est sûr qu'il peut y avoir plus de pensées, mais non, qui sont pas, en effet, enfin, la science en tout cas dit aujourd'hui que de toute façon, c'est pas censé apporter plus de difficultés. Après, tout le monde peut être touché par des dépressions, ce genre de choses,
de l'anxiété.
Les HPI n'en sont pas prémunis, mais en tout cas, voilà, c'est pas un trouble en soi.
Oui, ça suffit pas pour dire j'ai un trouble, je suis HPI.
Exactement.
En revanche, voilà, on peut se dire que si éventuellement on fait plus de kilomètres, il y a peut-être plus de potentialité à faire face à peut-être une anxiété, mais c'est l'anxiété le problème et pas le trouble, enfin
le HPI en lui-même,
voilà,
ouais,
qui n'est pas un trouble, c'est pas un trouble, et au contraire c'est censé être un avantage dans
exactement
la vie, finalement.
Exactement, et c'est vrai que du coup on reconnaît que le HPI a besoin d'être suivi, notamment dans l'enfance, parce que les enfants qui sont HPI vont avoir besoin de plus de stimulation à l'école ou ce genre de choses. Donc peut-être que là, effectivement, il y a éventuellement besoin d'aménagement et d'accompagnement. Mais à l'âge adulte, en tout cas, quand cette question-là est réglée de l'ennui, etc., a priori, juste le HPI, ça apporte rien d'autre au niveau difficulté, quoi.
D'accord. Voilà. Ok. Peut-être l'environnement dans lequel on évolue peut devenir vite ennuyeux.
Oui.
Et c'est bien d'avoir des stimulations qui correspondent aussi à ce besoin de...
C'est ça.
De nourriture intellectuelle, quoi.
Tout à fait.
Hein? Oui. Ok. Ça marche. Mais ce n'est pas un trouble. Ok. Donc, on est quand même sur un podcast qui parle maternité. Mm-hmm. Hein? T'es bien au courant.
Oui.
Qu'est-ce que toi, tu pourrais dire, si on fait la jonction entre mon domaine d'expertise et le tien, qu'est-ce que ces troubles pourrait générer dans la période de maternité?
Ouais. Alors là, je vais parler, bon, je vais pas faire de spécificité TSA, TDAH, je pense que je vais parler de neuroatypie en général, donc c'est la grande famille qui va regrouper tout ça. Le TSA et le TDAH vont engendrer des difficultés, je pense qu'ils sont probablement présente chez beaucoup de mamans en devenir, mais qui vont être exacerbées de par ces troubles. Je pense par exemple aux difficultés de sensorialité chez les personnes autistes, où là tout va être encore plus, notamment parce que les hormones travaillent, etc. Ouais. Donc voilà, qu'on est plus fatigué. Donc le fait d'être poussé dans la fatigue aussi, ça va être des moments où les sensibilités vont être extrêmement exacerbées. Donc ça va être quelque chose à laquelle il va falloir porter vraiment attention. Dans les neuroatypies en général, on va avoir beaucoup de difficultés à s'écouter. Et c'est un instant de vie où c'est essentiel, je pense. Mmh. De se comprendre corporellement, psychologiquement. Et c'est vrai que c'est des choses qui peuvent être très 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 difficiles pour les personnes qui sont neuroatypiques. Donc ça va être un enjeu majeur parce que on est sur des populations chez qui les dépressions pré et postpartum sont plus encore plus courantes que plus risquées que dans la population normale. Qu'est-ce que j'avais d'autre en tête? Oui, c'est des moments où on va avoir un besoin de routine qui va être exacerbé. Je pense aux TDAH qui ont beaucoup de mal à respecter les routines, les rendez-vous, prendre soin de soi au niveau médical, par exemple. Pour les TDAH, c'est quelque chose qui peut être très compliqué. Donc voilà, ça, c'est des enjeux qui sont aussi très importants dans le cadre de la grossesse. Voilà, le prendre soin de soi, gérer avec les rendez-vous médicaux, sage-femme, etc.
Ouais, et à la fois le côté routine et le côté... Le côté médical peut être difficile quand on a un TDAH.
Tout à fait,
ouais. Ah ouais, c'est peut-être des profils de personnes qui ne vont pas trop chez le médecin.
Non, qui oublient facilement le fait de prendre...
Qui oublient. Bon, là, on fait, vous savez, le truc insupportable avec les guillemets, avec les doigts, qui oublient. Ouais. Ok, donc le suivi peut être un peu plus dur à respecter. C'est vrai que c'est exigeant, enfin... Il y a des personnes qui disent « Oh, ça va, une prise de sang, un rendez-vous par mois, plus les échos, plus éventuellement d'autres rendez-vous spécialistes. » Mais pour les personnes qui souffrent, pour le coup, d'une neuroatypique qui représente un trouble, ça peut être encore plus dur.
Oui, totalement, ouais.
Puis il y a le côté social aussi. Enfin,
bien sûr.
On apprend à connaître des nouvelles personnes.
Oui.
À peu près tous les mois, c'est du coup un effort social.
C'est vrai. Pour les deux, d'ailleurs, hein, TSA, TDAH, c'est vrai que... appréhender de rencontrer de nouvelles personnes, ça peut être très compliqué. On est aussi dans quelque chose où il va falloir programmer et sa grossesse et l'avenir aussi, donc c'est des moments qui sont plutôt angoissants. Et je pensais à ça aussi concernant le TSA. Et le fait de se comprendre, il y a aussi le fait que dans la préparation de la grossesse, il faut exprimer ses besoins. Et que pour les autistes, c'est plus sécurisant d'avoir... c'est très important de sécuriser, c'est-à-dire d'avoir un plan très clair de ce qui va se passer, qui je vais voir, comment je vais accoucher, etc. Donc encore plus que chez des parents... dans la norme, entre guillemets. Là, ça va être un enjeu qui va être capital, je pense, pour les personnes autistes, c'est de vraiment avoir une vision claire de tout ce qui va se passer et d'être capable aussi, donc d'être bien accompagné, bien entouré pour pouvoir porter sa propre voix si on n'est pas en mesure de le faire aussi, parce que parfois, c'est des moments si stressants qu'on perd nos moyens, c'est ça.
Ouais, donc pas trop de place à l'impro.
Non.
Et en même temps, c'est vrai que le système aujourd'hui français... pour les personnes françaises, peut-être que dans d'autres pays, il y a d'autres choses à dire, mais le système médical n'est pas franchement hyper sécurisant, il n'y a pas un suivi très cocooning. Mm-hmm. Avec qui on va accoucher, déjà, c'est aléatoire selon quel type d'accouchement on va choisir. Mm-hmm. Donc, bon, peut-être que... big up les accompagnants.
Exactement. Hein.
Si on peut en parler avant, bien sûr, les sages-femmes et la préparation à la naissance, tout à fait complémentaires. D'avoir des repères assez clairs et peut-être en faire part à la maternité.
Exactement.
Aussi, où vous allez accoucher, si vous accouchez en maternité, d'expliquer que vous avez ce besoin-là en tant que personne neuroatypique, d'un cadre très sécurisant.
Très sécurisant.
Quoi. Ouais, pas hésiter à en parler. Ok. Moi, ce qui me vient dans ce que tu me dis, c'est que dans la phase de maternité, on vit ce qu'on appelle une transparence psychique. C'est-à-dire que quand on est hors grossesse, on a une certaine perméabilité à l'influence des émotions des autres. On a une construction qui est la nôtre. Déjà, je pense que quand tu souffres d'un trouble neuroatypique, il peut y avoir une certaine porosité. Quand tu es enceinte, il y a aussi ce phénomène-là qui est très bien fait, qui est fait pour que tu puisses t'attacher à l'être humain que tu vas mettre au monde, sinon il meurt. Donc c'est la loi de la vie qui est faite comme ça, on s'ouvre psychiquement, physiquement aussi, il y a tout un tas de transformations. Est-ce que tu penses que le cocktail transformation liée à la grossesse et transparence psychique et physique... et la jonction avec un TSA, TDAH vont vous faire quelque chose d'exponentiel ou quelque part l'un va peut-être temporiser l'autre
Alors je pense que de toute façon les profils sont extrêmement différents, donc il n'y a pas de règle qui va correspondre à absolument toutes les personnes neuroatypiques. Quand même on va tendre vers quelque chose qui sera de l'ordre de gros chambardements Et en général, c'est quand même plutôt comme ça que ça tend à se passer, au vu justement bah, de tout ce que ça va avoir comme incidence au niveau hormonal, changement de vie, etc. C'est effectivement quelque chose qui appelle plutôt un cocktail explosif de sensations, d'émotions, de bouleversements, plutôt que quelque chose qui va... Après, voilà, je dis ça, mais c'est vraiment pas une règle fixe et stricte, mais... Mais oui, oui, je pense que ça tend quand même à aller vers quelque chose qui sera telle une tornade. Voilà.
Ouais, faut s'y préparer.
Oui.
En même temps, dans mes observations d'accompagnement, moi, j'ai pas forcément quelqu'un qui m'a dit « Coucou, je suis neuroatypique et je veux que tu m'accompagnes ». Néanmoins, quand tu me parles, et puis c'est pas la première fois qu'on discute de ces sujets-là, j'ai des personnes en tête où je sais qu'il y avait... Des problématiques de rituels, d'adaptation sociale, d'angoisse énorme, d'addiction aussi qui ont pu... on pourra peut-être reparler des addictions dans les profils TSA ou TDAH. Finalement, qui ont aussi remarqué, chemin faisant... Alors peut-être que l'accompagnement, il était pour quelque chose. Attention, c'est pas juste la grossesse ou quoi, mais que le fait d'avoir déjà vécu des moments pas simples dans l'adaptation... selon le degré peut-être hein, de neuroatypie et de comment ça a été pris en charge, etc. Bah finalement, il y avait déjà comme une inoculation au moment un peu perturbant, là où d'autres personnes arrivent un peu comme une fleur en n'ayant pas vécu ce type de chamboulement et avaient peut-être plus d'outils pour pouvoir gérer la chose que des personnes qui ou ne se connaissaient pas en tant que personne angoissée ou autre, et qui se prenait tout dans la tronche d'un coup, quoi. Je sais pas si ça te parle.
Mais... Si, ok, je vois très bien. C'est vrai qu'il y a quand même cette chose qui est assez présente chez les personnes neuroatypiques, c'est justement le fait de compenser le trouble handicap énormément, c'est-à-dire de faire beaucoup d'efforts dans la vie de tous les jours pour justement essayer de pallier à ces difficultés et avoir l'air normal. Ça, c'est un trait. Oui. C'est un trait qui est quand même...
Ça m'a fait rire.
qui est vrai, très, très existant. Donc, en effet, après, moi, c'est vrai que je maîtrise moins ce domaine de la grossesse, etc. C'est vrai que ce que je m'en faisais, en tout cas, comme image, c'est que ça peut être quand même un moment où tout va être exacerbé. Mais il y a déjà, c'est vrai, cette faculté de compenser et de faire beaucoup d'efforts, justement, qui peut être un gros, gros plus au moment de la grossesse et de tous ces changements, justement, en effet.
Ouais. En dehors des addictions.
Oui.
Voilà, parce qu'on n'a plus le droit de prendre de l'alcool, des drogues pour s'adapter socialement. Donc là, tout dépend, en fait, s'il y avait ça et qu'on est obligé de l'arrêter d'un coup. Enfin, voilà, ça dépend vraiment des profils de personnes.
Mais, tout à fait.
Bon, mais on peut voir les deux aspects. Moi, je pense que les hormones font bien leur taf aussi et que, en fait, quand tu arrives au 6e ou 7e mois de grossesse, tu as une altération des états de conscience qui va faire que tu t'en fous un peu plus des autres. C'est fait pour que tu puisses embarquer vers l'accueil de cet être humain qui aura besoin de toi quasi H24 pendant des mois et des mois. C'est comme si tu quittais un peu les réalités ordinaires et t'as des états de conscience alpha qui se mettent en place où tu vas être un peu plus dans la lune, tu vas avoir des pertes de mémoire, etc. Et moi, ce que je remarque, alors je peux pas te dire TSA, TDAH, mais des personnes qui vont être plutôt méga anxieuses socialement, etc., qui vont me dire que finalement, c'est assez doux, ça leur fait une petite pause avant la naissance.
Mm-hmm.
Mais que les choses sont un peu plus cool, même si leur corps leur envoie des messages assez forts. Mais que les moments les plus peut-être critiques, je me dis, hein, peut-être que je me trompe et on peut pas faire de vérité générale, mais je dirais les essais bébés qui peuvent être très 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 difficiles, et j'en reviendrai dessus pourquoi, et peut-être que toi tu pourras apporter des petites pistes. Le début de grossesse aussi, avec tous les symptômes hormonaux. Et puis, prendre conscience qu'il va se passer un truc de fou, qu'on va accueillir un être humain dans notre vie, et en même temps, avec ce premier trimestre, on te dit beaucoup, il y a des risques de fausse couche, ou en ayant peut-être déjà vécu des pertes de grossesse. Et bien sûr, le postpartum.
Bien sûr.
Où il y a l'enfant qui est là, qui te réveille toutes les 2 heures la nuit, quand il est sympa, et ça te détraque un peu l'organisme, hein, la
bien
fatigue.
Sûr.
Je pense que ça vient bien appuyer aussi sur les neuroatypiques, peut-être encore plus fort. Donc, pour revenir sur les essais bébés, quand ça vient tout de suite, c'est peut-être la nouvelle qui peut être un peu chamboulante. Quand le temps passe, Je ne sais pas, qu'est-ce que tu peux dire sur la neuroatypie et le besoin de contrôle sur les événements de la vie? C'est-à-dire que ben, voilà, je maîtrise mon ovulation, j'ai bien tout appris, et en fait, ça ne marche pas, quoi. Ou alors la relation de couple qui peut être un peu axée sur la reproduction et puis le côté spontané, etc. Enfin, tous ces enjeux qui appartiennent au désir d'enfant. Mm-hmm. Je ne parle même pas de la médicalisation en cas d'infertilité, mais voilà, ce mouvement d'attente et de désespoir, etc.
Ah bah après, c'est ce que je disais tout à l'heure. Je pense qu'on va parler de choses qui... Enfin, la neuroatypie, notamment le fait de vivre la grossesse et tout ce que ça englobe, on va être sur des cheminements qui seront similaires à des femmes, des parents qui sont dans la norme, mais qui peuvent être exacerbés de par la neuroatypie. Donc on sera sur, évidemment, ces mêmes angoisses, donc dans l'autisme avec des risques de meltdown, de shutdown. Donc ça, c'est les crises autistiques.
C'est quoi ça, meltdown, shutdown?
Meltdown et shutdown. Alors, petit point info, les meltdown...
J'ai le i.
Oui, le point i.
Le point i.
Les meltdowns, on va être sur une crise. Donc, c'est les crises autistiques. Donc, meltdown, crise, explosion. Donc, c'est-à-dire arriver à un trop-plein. Et là, c'est la cocotte qui explose. Donc, voilà, crier, pleurer très fort, gestes répétitifs très marqués, se faire mal, par exemple. Enfin, voilà, ça, c'est... Enfin, ça peut prendre beaucoup de formes, mais c'est une crise autistique qui est liée à une explosion, vraiment. C'est-à-dire qu'il y a tout qui sort, on peut plus contrôler, et voilà. Et le shutdown, c'est l'implosion. Donc là, on va être plutôt sur quelque chose qui va être très intérieur. Beaucoup de difficultés à parler, par exemple. On peut plus être touché, on peut plus... C'est vraiment quelque chose qui va être un repli sur soi. Mmh. Voilà, les terrains d'angoisse, d'inconnu, c'est des choses qui vont être... mis bout à bout, voilà, on peut aller vers ce genre de crise là
quand c'est des moments,
ouais, c'est ça, quand c'est des moments qui sont ouais très forts, teintés d'incertitude, à répétition, quand c'est très long, oui, je pense que le découragement peut emmener beaucoup de crises. Et puis bah voilà, pour le TDAH aussi, la personne TDAH, ça peut aussi être des moments qui sont qui vont amener plus de difficultés, des dysfonctions exécutives qui vont être plus compliquées à gérer encore. Ouais, voilà. Okay. Après, voilà, comme je le disais, et je vais le répéter encore, c'est vraiment chaque personne est très différente, ouais, et gère à sa façon, mais c'est vrai que...
C'est des traits quand même assez courants,
ouais.
Des choses qui peuvent se produire, d'où l'intérêt d'être bien, bien accompagné, à la fois sur le plan maternité ou SCBB, d'être bien cadré. Bon, bah, c'est mon métier, hein, mm-hmm, d'apporter cet accompagnement, de pouvoir en parler... Voilà, quand on est dans cette période d'essai de grossesse, d'avoir un point en discussion régulier avec une personne de confiance
tout
qui peut aussi donner des petits tips, vérifier avec vous là où vous en êtes, faciliter un peu le travail aussi. Et puis sur le côté neuroatypie, peut-être qu'on peut se découvrir à ce moment-là aussi. Peut-être que cet épisode va faire que mince, mais oui, ça porte un nom peut-être, ce que je traverse.
Exactement.
Je ne suis pas fou, je ne suis pas folle.
Je ne suis pas que bizarre, je ne suis pas bizarre d'ailleurs. Il y en a d'autres qui sont comme moi, ça peut aussi être...
Si ça porte un nom, c'est qu'il y en a d'autres.
Exactement. Hein. Mais okay. C'est vrai que oui, ça peut être une découverte qui est importante, et notamment dans les moments de grossesse, justement, parce que les émotions sont plus fortes, justement, que les ressentis sont plus forts, où là, justement, le fait que ce soit exacerbé et qu'on n'ait pas connaissance de ce trouble, le fait que ça déborde, justement, là, ça peut être le moment où on va voir qu'il y a quelque chose qui va pas, qui est différent, qui est pas... Ouais, voilà, qui est pas normal, encore avec les guillemets, où les sensorialités sont plus fortes, où les besoins sont plus forts, le besoin d'avoir des présences aussi, une perte d'autonomie qui va être aussi plus forte dans ce moment-là, parce que bah ouais, quand on maîtrise son environnement et son quotidien dans ces troubles-là, même si on n'en a pas conscience, parce qu'on a fait en sorte d'adapter son environnement à soi, ça peut rouler, il n'y a pas de souci. Des fois, on perçoit même pas le handicap, quoi. Et dans les moments de vie très forts comme une grossesse, c'est pas là. Il y a tout qui revient.
Ouais, d'accord.
Voilà, il y a tout qui arrive, tout qui est plus fort, et
Ça devient submergent.
Ça devient submergent. Et là, c'est vrai qu'on peut se poser des questions, du coup, sur...
C'est tellement important d'en parler parce que parfois, les personnes peuvent se dire « c'est la grossesse qui me fait ça, du coup, c'est le bébé qui me dévore, il ne faut pas que j'attende un enfant, je ne suis pas faite pour ça. »
C'est des questions qui peuvent totalement arriver, ouais.
Mais ce n'est pas tant la grossesse, finalement, que peut-être la neuroatypie qui n'était pas identifiée et qui revient au galop parce que la grossesse représente un déséquilibre.
Exactement.
Ah, j'adore. Ça va me permettre aussi de faire relativiser certaines personnes aussi, peut-être se dire est-ce que c'est vraiment la maternité qui te fait ça ou c'est le contexte de maternité qui vient révéler autre chose.
Bien sûr.
Donc, peut-être un tempérament anxieux en dehors des neuroatypies, mais peut-être ça aussi, quoi. Donc ça demande d'aller peut-être se faire accompagner différemment, mais tellement, tellement intéressant. Et... Alors, moi, je pense aux personnes qui sont médicalisées dans un parcours PMA et également qui sont médicalisées dans leur grossesse, qui correspond à peu près à toutes les grossesses. Mmh. Donc, il peut y avoir ce redoutement, ça veut rien dire, mais on redoute le côté très cadré, médicalisé. Et en même temps, il peut y avoir un côté rassurant aussi,
bien sûr,
cette prise en charge. Donc de trouver les bonnes personnes et on a le droit de se faire accompagner par des personnes en qui on a confiance. Mmh. Peut-être en parler aux professionnels de santé, de ne pas prendre le premier venu sur Google, mais
c'est ça.
De trouver un professionnel bienveillant, une sage-femme si vous n'êtes pas en parcours pathologique, ou ça peut être un gynécologue aussi. Les gynécos en général ont un peu moins le temps de discuter. Après, si un parcours pathologique, on n'a pas le choix que d'aller voir un gynécologue, mais prendre le temps quand même de discuter avec ces professionnels, trouver la bonne personne. Est-ce que tu as des outils? Tu sais, qu'est-ce qu'on peut faire pour améliorer le quotidien? Parce qu'une neuroatypie en soi, le fait d'être différent de la norme, c'est pas grave en soi, mais c'est plutôt quand ça devient souffrant. Quand il y a ces moments comme ça où on est un peu désorganisé, qu'est-ce qu'on peut mettre en place?
Eh ben, je pense qu'on peut mettre en place quand même pas mal de choses, notamment dans l'autisme, par exemple, se créer un cocon, déjà chez soi, un endroit où on se sent vraiment bien avec plein de petits trucs sensoriels autour de nous, des musiques apaisantes, vraiment être dans le care pour soi, voilà, des moments où se trouver vraiment des moments où on va être dans notre bulle,
faire
un QG à la maison, c'est mon endroit, c'est mon truc, je me sens bien là-dedans, donc ça, je pense que ça va déjà être hyper chouette d'avoir son endroit doudou, cocon, d'être bien entouré par la famille, par les amis aussi. Ça va être très bien justement de pouvoir parler de ce trouble aux professionnels de santé aussi. Pas forcément choisir quelqu'un qui est spécialisé, mais en tout cas quelqu'un qui est ouvert et qui a envie de comprendre. Ça, c'est hyper important, quoi.
Et puis d'exprimer le besoin.
J'ai besoin
que vous m'expliquiez tout de A
exactement.
À Z, pourquoi vous me proposez ça.
Demander des consignes super claires et puis réussir à être le plus... Enfin, soit ou demander à la personne qui nous accompagne, que ce soit proche ou accompagnant, accompagnante, de nous aider à définir le mieux possible notre projet bébé, par exemple, d'avoir quelque chose de très clair.
Projet de naissance, tu veux dire?
Projet de naissance, oui, pardon. Ouais. Je ne maîtrise pas, c'est ça.
Je cherchais à savoir de quoi tu parlais exactement. Donc voilà, les conditions dans lesquelles on souhaite mettre au monde
notre
bébé, quoi. Donc le projet de naissance est d'autant plus important quand on vit cette neuroatypie, quoi.
Mais voilà, je pense que le maître mot, c'est douceur, et puis douceur de soi, c'est vraiment primordial, je pense, dans ces moments qui peuvent être des gros bouleversements déjà. Donc voilà, être le plus chouchouté possible, se chouchouter au max, et voilà, éviter comme ça au maximum les potentielles entraves au bien-être. Ça va être vraiment là-dessus qu'il faut axer, et vraiment pas hésiter et pas culpabiliser, de se dire oh là je suis fatiguée, c'est pas normal, c'est pas bien. Non, c'est normal, d'autant plus comme pour
déjà
tout le monde,
de base,
évidemment.
La grossesse est très, c'est pas une maladie, mais on est en train juste de fabriquer un être humain, les gars.
Bien sûr.
Bon, on a le droit d'être un peu fatigué et que le quotidien normal devienne pesant, d'autant plus quand on vit ça, quoi.
Ouais. Bah déjà, pour les autistes, on va avoir cette fatigue chronique qui est déjà ultra présente dans la vie de tous les jours. C'est-à-dire que la moindre chose, comme prendre sa douche ou préparer à manger, ça va nous retirer un pourcentage de batterie d'énergie qui est assez énorme. Donc, d'autant plus dans ces moments-là, vraiment déléguer au max et prendre soin de soi si on n'a pas le... Comment dire ? l'énergie pour astiquer sa maison de A à Z ou ce genre de choses qu'on pourrait se dire qu'il faut absolument faire parce que là ça fait une semaine que j'ai pas lavé ma cuisine, bah c'est pas grave. Oui. L'important c'est voilà, c'est d'être bien, de prendre soin de soi au maximum.
Ouais, donc soit lâcher prise sur certaines choses, soit déléguer aussi.
Pas, exactement.
Pas hésiter à investir dans une femme de ménage.
Oui.
C'est horrible, femme de ménage, pourquoi femme ?
C'est vrai que c'est mieux, ouais.
Un agent d'entretien, agent je sais pas, quelqu'un qui fait, bref, qui fait les choses à votre place. Ouais, et se mettre au centre, quoi.
Se mettre au centre, absolument.
Hésiter, ouais,
okay. Et puis après, dans le TDAH, on va être sur... et puis dans l'autisme aussi, d'ailleurs. Avoir un maximum de repères visuels pour ce qui va être préparation des rendez-vous médicaux. Se noter ça sur un tableau blanc ou ce genre de choses.
Oui. Avoir un tableau ou un repère qui permet de noter.
Exactement, ouais. Ça, okay. ça peut être chouette parce que, évidemment, c'est des choses sur lesquelles il ne faut pas transiger dans ces moments-là. Tout l'aspect médical, justement, qui est très important quand même.
Ok, ouais. Et le postpartum, je ne sais pas si ça t'évoque quelque chose pour ces personnes de se dire, bah ça y est, j'ai un nouvel être humain dans ma vie, c'est mon enfant, et j'en suis responsable. Qu'il pleuve, qu'il vente, qu'il neige, il n'y a pas de service après-vente. Mmh. Je rentre chez moi, j'ai plus la sonnette comme à la maternité pour demander pourquoi il pleure, etc. Niveau confiance en soi, niveau responsabilité, déjà quand parfois s'occuper de soi, ça peut être dur, ça peut demander énormément d'énergie. Mmh. Quid de cette transition ?
Et c'est pareil, je pense que ça peut... Bah, en tout cas, dans les chiffres, c'est vrai qu'il y a des dépressions postpartum plus présentes chez ces populations-là. Parce que c'est pareil, c'est des chamboulements. C'est vrai qu'avoir un nouveau petit être dont il faut s'occuper, qui demande énormément d'énergie, c'est pas évident. Je pense que principalement, ce qu'il faut se dire, c'est que il faut pas culpabiliser. C'est normal d'être fatigué, c'est normal de pas pouvoir tout faire non plus. Et pareil, je sais, je vous vois, le syndrome de l'imposteur, là, vous êtes capable, il n'y a pas de problème. C'est vrai que ça va être potentiellement plus difficile, mais vous êtes totalement capable de vous occuper de votre enfant. Parce que oui, le syndrome de l'imposteur est très très présent chez les personnes qui présentent des neuroatypies. Le fait de ne pas se sentir capable de...
Légitime. Ok.
Ah oui. Voilà, donc oui, évidemment, votre trouble va pouvoir vous amener des difficultés, va pouvoir aussi vous amener des méthodes différentes de faire, parce que une créativité qui est différente, en fait, une façon d'être à la vie, parce qu'on voit, le trouble et les difficultés que ça incombe, mais il y a aussi beaucoup de choses qui peuvent être très très chouettes dans le fait d'avoir une neuroatypie et voilà, tout ce qui fait de vous ce que vous êtes, c'est aussi tout le reste, donc voilà.
Ouais, d'en faire une force.
En faire une force, ouais.
Et pas, de pas s'auto-dévaloriser en permanence, et si ça arrive, faites-vous accompagner.
C'est ça.
Tous les conseils qu'on peut donner pour le postpartum, dans le podcast notamment, sont d'autant plus vrais pour les neuroatypies. Le QG, ça fait partie des choses que je recommande en postpartum, d'avoir un petit cocon pour soi et pour son bébé. En retrait du monde, filtrer les visites.
Ouais.
Pour venir voir le bébé, en fait, c'est hyper énergivore. Si vous en avez envie, besoin, prévenez les gens sur le moment, mais avant, de mettre un filtre sur ces visites et prendre le temps, parce que, en fait, vous récupérez de la grossesse, vous récupérez de l'accouchement, selon comment il se passe, on peut pas le savoir à l'avance non plus, à quel point il va nous pomper notre énergie, mais ça prend de l'énergie énormément. On a besoin de récupérer, on a besoin d'horizontalité pour remettre les organes en place. On saigne, on a des écoulements de lait, on apprend à allaiter si on allaite, on apprend à nourrir au biberon si on donne le biberon, on apprend à changer notre rythme circadien. C'est beaucoup de changements. Et pour bien les vivre, ça demande à prendre le temps de s'adapter, à écouter son corps, sa tête, et à la fois d'être bien entouré par des personnes qui vont apporter de l'énergie plus que d'en aspirer,
surtout.
Hein, c'est de pouvoir être bien entouré, mais que par des personnes, à ce moment-là, en tout cas en postpartum immédiat, qui vont être dans cette compréhension qu'on a besoin, par exemple, d'amener un petit plat tout près quand la personne vient et elle reste pas 3 heures et va pas apporter le bébé, lui faire plein de bisous, parce que ça peut être hyper offensif aussi dans ces moments-là.
Tout à fait.
Et de veiller juste à notre petit bien-être à ce moment-là. Donc ça peut être un vrai challenge pour ces populations.
Ah bah c'est sûr que c'est encore quelque chose qu'on rajoute à la suradaptation, et à la fois je pense que justement le fait de bien se connaître, bien connaître son trouble et bien comprendre comment on fonctionne, c'est un réel atout qui va être un atout tout au long de la vie. Donc identifier ses besoins, savoir dire non, savoir dire ce qu'on ressent, c'est je pense voilà un travail à faire peut-être en amont, c'est-à-dire prendre le temps de noter qu'est-ce qui me trigger, ça je me sens pas très bien, ça me fait monter une crise peut-être, noter toutes les petites choses par exemple qui font que là sur le moment on sent que ça peut nous faire nous sentir mal, etc. Vraiment identifier toutes les sources de sensations de désagréables, stress. De stress, ouais. Et une fois que tout ça est en place, c'est légitime. Tout ça, c'est légitime. Voilà, tous vos ressentis sont légitimes. Donc, on fait en sorte d'être respectés au maximum dans tout ça, quoi.
Mmh. Ouais, l'idée d'écrire, je la trouve intéressante, à la fois pour évacuer et puis en même temps pour apprendre à se connaître.
Exactement.
De mémoriser... comment ça s'est connecté comme ci ou comme ça à ce moment-là, et on peut aussi développer des techniques
tout à fait
tout seul,
ouais,
pour se dire ah bah là ça avait marché, je vais tenter ce truc-là. Et puis peut-être aussi pour garder en mémoire comment ça s'est passé
carrément
dans cette période, en tout cas. Si vous êtes avant la grossesse, commencez à, si c'est pas déjà le cas, à prendre le temps de ressentir ce dont vous avez besoin quand il y a une émotion ou voilà, quelque chose qui va pas, c'est qu'il y a un besoin qui n'est pas assouvi.
C'est ça.
C'est de comprendre pourquoi, comment. Et c'est vous. Et c'est pas uniquement votre neuroatypie qui fait ça. C'est là, aujourd'hui, voilà comment je me sens. Et essayer de comprendre de quoi on aurait besoin pour que ce soit mieux.
Bien sûr.
Et c'est un bon entraînement pour après. Puis parfois, la grossesse est aussi l'occasion d'apprendre à faire ça.
Totalement. Totalement.
Je pense qu'on a fait un sacré tour quand même du sujet.
C'était super chouette.
Est-ce qu'il y a autre chose à rajouter peut-être ?
Bah non, je pense que j'ai à peu près fait le tour de tout ce que j'avais noté, oui. Oui, 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 c'est bon.
Moi j'ai autre chose qui me vient quand même, c'est... je crois très sincèrement que le cerveau rationnel a besoin de nourriture, aussi pour les personnes neuro-atypiques, d'autant plus peut-être, c'est-à-dire que l'inconnu n'est pas forcément une chose très confortable, même pour les personnes qui n'ont pas de neuroatypie. Donc ne pas hésiter à faire des ateliers pour comprendre, ou des lectures, des podcasts, etc., pour bien comprendre en quoi consiste, dès la fertilité, comment fonctionne mon corps, le corps de mon compagnon, de ma compagne, la grossesse, qu'est-ce qu'on traverse pendant la grossesse, qu'est-ce qu'on peut éventuellement traverser si on a envie de s'informer, mais au moins aller à l'essentiel et d'être suivi peut-être par une personne qui parle de l'essentiel, une accompagnante périnatale par exemple. Mais des lectures qui peuvent être intéressantes. Alors attention à la surinformation aussi, parce que peut-être que quand il y en a trop, il y en a trop, et de filtrer aussi notamment les réseaux, et de faire attention à couper le fil d'Instagram quand il y a trop d'infos, et souvent c'est des infos pas toujours très... très
pas pertinentes.
Ni pertinentes, ni joyeuses, oui, parfois. Donc, mais quand même s'enrichir sur qu'est-ce que je vais vivre à ce moment-là, ce qui permet d'être bien informé et
bien
prévenu.
Ouais, de partir déjà avec une assise, quelque chose de... ce sujet-là, bon, voilà, je sais ce qui va se passer à peu près, et oui, c'est très important, en effet, de s'informer...
En amont, quoi.
Ouais, ouais, ouais.
Par exemple, postpartum, bah ouais, je vais saigner. Quelle quantité, à quoi ça ressemble, de quoi j'ai besoin.
Oui. Qu'est-ce que je risque de ressentir, éventuellement lire des témoignages aussi, parce que bah voilà, la façon de ressentir, elle va être différente. Il y a les faits, il y a les actes, et puis il y a toutes les possibilités qui sont liées à ça, quoi. Donc ouais, les témoignages, ça peut être très chouette aussi, de savoir comment les autres le vivent, au-delà de c'est écrit comme ça dans la science, c'est ça qui est dit maintenant quoi, qu'est-ce qu'on en fait, comment ça arrive, quoi.
Ouais, bah on peut écouter, bon, je pense que les personnes qui écoutent Un Temps pour Naître connaissent largement Bliss Stories, parce que c'est un podcast qui est mille fois plus connu que le mien et plus médiatisé. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'il repose sur des témoignages. Donc, écoutez ces témoignages, ça peut... Puis il y a d'autres podcasts, hein, qui existent, mais le podcast est un bon format pour ça. Et puis, bah, les potes, les amis, votre mère, votre grand-mère, pourquoi pas. Voilà, les personnes de votre entourage, quoi. Demandez, bah, comment toi, t'as vécu ça, qu'est-ce que t'as ressenti. Donc, axer autour du ressenti, c'est ce que tu dis, en plus de l'information, quoi.
Ouais, 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 c'est ça. Pour avoir vraiment... c'est ça, toutes ces possibilités, en fait, savoir... pas juste lire ça, c'est comme ça que ça doit arriver. Ah non, il y a quand même il y a quand même d'autres chantiers qui existent, d'autres façons de le vivre. Voilà, pas se dire bah j'ai lu ça, c'est comme ça que ça doit arriver. Pourquoi moi ça m'arrive d'une autre façon en fait quoi.
Oui, bah d'être ouverte aussi sur le fait que ce que vous allez ressentir c'est peut-être inédit.
Oui.
Ah j'ai lu ça, mais ça se vit. Enfin pour tout le monde.
Bien sûr.
C'est il y a ce que tu lis et ce que tu vis, ça n'a juste pas grand chose à voir. Mais le fait de l'avoir lu, t'es pas en mode ouah qu'est-ce
qui
m'arrive
qui se passe.
Mais plutôt ah oui, c'est ce truc-là. Ah, ça fait ça. Wow. Ok. Et des choses, on s'en apercevra même pas. Mais et je me dis, les groupes aussi peuvent être intéressants. Alors, peut-être pas les gros groupes sur les réseaux, etc. Pourquoi pas, mais avec modération. Mais les petits groupes, notamment bah, quand les sages-femmes font des prépas à la naissance, elles font souvent des groupes de trois femmes, trois couples. Et on se porte les unes les autres. Des ateliers aussi faits par des doulas, des accompagnantes sur certains sujets. Des cafés ou des cercles futures mamans, des cercles maman-bébé. Il y a aussi le café Poussette qui est une asso où on peut rencontrer d'autres femmes. C'est des femmes pour le coup avec leurs bébés qui n'ont pas ou qui reprennent pas le travail. Bref, de pouvoir communiquer avec d'autres personnes qui traversent aussi ces moments-là, si le côté social est ok, quoi. Ouais. Ou pourquoi pas avoir une sorte de marraine qui a traversé ça quelques mois avant et qui accepte de.
De prendre sous son aile, expliquer un peu, d'être là. Et puis, ouais, j'ajouterais aussi, donc, pour l'aspect neuroatypique, il y a aussi des assos qui existent, des groupes qui se forment, donc, sur les réseaux ou pas, des super assos, notamment Sésamotiste à Nantes, mais après, il y en a plein d'autres. Faut un petit peu, enfin voilà, faut pas hésiter à chercher, ça se trouve assez facilement quand même, ou c'est des sujets qui peuvent être abordés aussi. Voilà.
Si on crée une asso pour les femmes enceintes neuro-atypiques, c'est peut-être capillotracté.
Quoique. Pourquoi pas? Peut-être que ça existe déjà.
Cherchez, voir ce qui. Vers quoi vous tendez, et puis peut-être qu'en fonction de l'évolution de votre expérience, il y aura des nouvelles choses qui pourront s'ouvrir. Merci Julie.
Et bien avec plaisir.
Où est-ce qu'on te retrouve si les personnes veulent être accompagnées par toi?
Alors on me retrouve pour l'instant et jusque. Alors pour l'instant sur ma page Instagram, donc l'éclosion du papillon.
C'est beau.
Oui, c'est joli. Je lance mon entreprise le 18 avril
2024.
C'est ça. Donc imminemment. Et de façon imminente. Et du coup, ça se passera à Nantes, au début au domicile, si besoin. J'aurai pas de cabinet au début, et sinon, ce sera en visio.
En visio aussi. Donc, peu importe où vous êtes dans le monde.
Dans le monde.
Si vous voulez être accompagné par Julie, vous pouvez la contacter via son Instagram. Et je peux mettre tes coordonnées du coup dans le lien de l'épisode, bien sûr. Donc la visio, très pratique, tout comme l'accompagnement périnatal. Et puis si vous êtes sur Nantes, bande de petits chanceux, eh bien vous pouvez rencontrer Julie directement.
Et voilà.
Eh bien merci pour votre écoute. Et puis merci à toi Julie pour tous ces éclairages qui, moi, m'aident aussi en tant qu'accompagnante à comprendre certains trucs. Et puis surtout, forcément, pour les personnes... potentiellement concernés. Et puis je vous dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Si vous avez envie qu'on retraite du sujet sous un angle particulier, n'hésitez pas à nous faire signe aussi. On
carrément pourra,
voilà, Julie et moi on se voit quand même régulièrement, donc ça peut s'organiser.
Carrément.
À bientôt.
Merci pour votre écoute et votre confiance. Si vous aimez mon podcast, vous pouvez m'aider à le rendre plus visible en me mettant une note et un avis sur votre appli de podcast. Vous pouvez aussi partager auprès de vos proches qui sont concernés. Et si vous souhaitez vous aussi être accompagné sur votre chemin du désir d'enfant et de la maternité, mes séances se font au cabinet à Vannes ou à distance par visio. Envoyez-moi un message privé sur Insta ou un mail à edvige@untempsnaitre.fr. À bientôt.